Il est 4h à Paris, 2h en temps universel et c'est RFI que vous écoutez.
Mathis Limano.
En Côte d'Ivoire, l'ouverture officielle du BMPA, la Bourse des matières premières agricoles, après un lancement symbolique. Ce vendredi marque la première vraie journée de cotation. Le flou toujours autour de la résolution de la guerre en Ukraine. Kiev se dit prêt à discuter avec la Russie. Rendez-vous est donné lundi à Istanbul, mais exige auparavant de connaître les conditions du Kremlin et demande une discussion constructive. À suivre aussi, le Hamas rejette la proposition de trêve des États-Unis. Elle avait été acceptée en amont par Israël. Les arrestations d'opposants politiques se poursuivent en Géorgie, plus de 6 mois après l'arrivée du pouvoir pro-russe. Et puis en France, les inégalités entre hommes et femmes se perpétuent, notamment, vous l'entendrez, dans les écoles d'ingénieurs. C'est une première en Afrique de l'Ouest. 7 ans après son annonce, la Côte d'Ivoire tient officiellement sa bourse des matières premières agricoles. La BMPA, c'est son nom, va connaître aujourd'hui sa première vraie journée de cotation. Pour son lancement officiel et symbolique, il y a 2 jours, environ 90 tonnes de produits ont été échangées en une dizaine de minutes pour une valeur de près de 31 millions de francs CFA. Pour le moment, seule la noix brute de cajou, la noix de cola et le maïs sont concernés, mais à long terme, l'objectif est de fixer le prix en fonction de l'offre et de la demande à l'échelle nationale. Benoît Almeyras, cette bourse repose notamment sur des courtiers des entrepôts agréés.
Concrètement, les cultivateurs peuvent livrer leur stock aux entrepôts homologués situés près des zones agricoles. Ces producteurs reçoivent alors un récépissé qui sert de titre de transaction à la bourse. Raoul Alex Zouzou dirige ACBH, l'une des 3 sociétés de courtage agréées.
Avec ce récépissé-là, ces coopératives et producteurs viendront rencontrer des courtiers pour pouvoir faire vendre leur production en ligne. Et à partir de la plateforme de la bourse, le courtier qui est également en relation avec des industriels, des transformateurs et des exportateurs, proposera ces productions-là pour les acheteurs.
Pris ensemble, les entrepôts homologués offrent une capacité totale de 500 000 tonnes. Bessoro est le patron de l'organisation interprofessionnelle de la filière Anacard. Pour lui, ce stockage associé au système boursier présente des avantages.
La production de l'Anacard se fait sur une courte période. Du coup, on a l'abondance sur la période de récolte. Pour nous, le fait de capter le stock sur une période où il y a l'abondance, ça permet de réguler le marché et donc de vendre à plus tard quand la demande est peut-être importante ou bien intéressante pour le producteur.
À moyen terme, l'objectif de la Bourse des matières premières agricoles est de faciliter les transactions de 20 à 30% des productions de noix de cajou brut, de noix de cola et de maïs. Les cours, eux, ne pourront pas varier de plus de 10 à 15% par séance selon les courtiers. Benoît Almeyras, Abidjan, RFI.
Et les séances de la BMPA seront ouvertes de 10h à midi, temps universel, du lundi au vendredi. Kiev accepte d'ouvrir à nouveau le bal des négociations avec Moscou, mais veut connaître en amont les conditions posées par le Kremlin et dit espérer une discussion constructive. La Russie a proposé de se retrouver lundi à Istanbul, mais continue d'écarter un sommet entre Vladimir Poutine, Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Le Hamas rejette la proposition de cesser le feu formulée par les États-Unis. Le mouvement islamiste estime qu'elle ne répond à aucune des demandes du peuple palestinien, notamment l'arrêt définitif des combats. Israël a pour sa part accepté cette proposition. Alors pourquoi à ce moment, pourquoi maintenant Tel Aviv avait résisté jusque-là à la pression internationale? Mais selon Hassni Abidi, directeur du Centre d'études du monde arabe et méditerranéen, cette pression a eu raison du premier ministre israélien. Et surtout, cette nouvelle proposition collait bien plus aux exigences de l'État hébreu.
Pourquoi un accord maintenant? Parce que d'abord, il y a un retournement de l'opinion publique qui est très important, mais aussi une certaine pression sur Benjamin Netanyahou, mais on le voit bien avec plusieurs pays européens. La position allemande, elle est très significative, venant de nouveaux chanceliers qui est considéré comme un ami d'Israël, mais aussi on voit bien qu'il y a une certaine réticence de la part de président américain qui avait snobé une escale ou en tout cas un appel téléphonique à Benjamin Netanyahou quand il était en visite dans le Golfe. Et bien sûr, et surtout la question humanitaire, c'est-à-dire aujourd'hui les images qui nous proviennent de Gaza avec cette situation de quasi-famine, tous ces éléments-là ont constitué finalement un tournant dans la position internationale et qui a probablement aussi poussé les Benjamin Netanyahu à accepter une proposition qui n'est pas du tout, en tout cas, à l'encontre des objectifs de Benjamin Netanyahu, parce que c'est une proposition qui laisse la porte ouverte à une reprise des opérations militaires.
Un propos recueilli par Théo Conscience. Les opérations militaires qui se poursuivent à Gaza. Hier, 54 personnes sont mortes dans des bombardements d'après la défense civile, tandis que la direction de l'hôpital Al-Aouda, dernier en service dans le nord de l'enclave, fait état de l'évacuation forcée des patients et du personnel médical par l'armée israélienne. Enfin, cet énième rebondissement dans le feuilleton de la guerre commerciale de Donald Trump. Les droits de douane sont finalement maintenus par une cour d'appel. Le temps, disent les juges, de se prononcer sur le fond du dossier. Et ce, moins de 24 heures après avoir été bloqué en première instance. Une décision qualifiée d'horrible et de trop politique par Donald Trump. Le président américain, qui tiendra demain une conférence de presse dans le bureau Oval, sorte de pot de départ en honneur d'Elon Musk, qui quitte officiellement le gouvernement américain. Ce sera son dernier jour, mais pas vraiment, car il sera toujours avec nous pour nous aider jusqu'au bout. S'est ému Donald Trump sur son réseau social. RFI, il est 6h06 à Tbilissi, un deuxième opposant politique arrêté en l'espace d'une semaine en Géorgie. Ils ont en commun d'avoir refusé de se présenter devant une commission parlementaire créée pour enquêter sur les prétendus crimes du précédent pouvoir pro-européen. Pour rappel, c'est un gouvernement pro-russe qui est aux manettes de la Géorgie depuis le mois d'octobre, ce qui avait provoqué des manifestations monstres à travers tout le pays. Régis Janté est à Tbilissi.
C'est le second politicien de premier rang arrêté en une semaine. Cette fois, c'est Nika Melia, ex-patron du principal parti d'opposition, le Mouvement National Uni, et homme clé de la Coalition pour le Changement, qui a été appréhendé ce jeudi soir. Ce vendredi, il était convoqué devant un tribunal de Tbilissi après son refus de se présenter devant la commission parlementaire créée ad hoc pour enquêter sur les prétendus crimes du régime précédent, celui de l'ancien président très pro-occidental, Mikhaïl Saakachvili. Commission présentée par le pouvoir en référence au tribunal de Nuremberg contre le régime nazi allemand, mais dénoncé par les opposants et les organisations de la société civile comme une mascarade destinée à éliminer toute opposition pro-occidentale. Bidzina Ivanishvili, le milliardaire homme fort de la Géorgie, et ses hommes dans le gouvernement ont promis à plusieurs reprises de faire interdire les partis d'opposition. Et ce, dans un contexte où des Géorgiens manifestent chaque jour depuis plus de 6 mois contre la dérive pro-russe et dictatoriale du parti au pouvoir. Régis Janté, Tbilissi, RFI.
Une deuxième province canadienne déclare l'état d'urgence face aux incendies dévastateurs. La province du Saskatchewan emboîte donc le pas à celle du Manitoba. Dans cette dernière particulièrement touchée, 17 000 habitants sont en cours d'évacuation. Les avions de l'armée ont été dépêchés en soutien aux pompiers. Enfin, connaissez-vous l'école polytechnique, l'école des mines ou encore Centrale Suprélec en France? Plus de 200 écoles d'ingénieurs peuplent le paysage de l'enseignement supérieur. Chaque année, elles accueillent un total de plus de 40 000 étudiants et le constat est sans équivoque. Les femmes sont toujours moins nombreuses que les hommes. C'est ce que révèle une étude de l'Institut des politiques publiques, Sylvie Coffi.
Jusqu'au lycée, tout va bien. Les filles ont les meilleurs résultats scolaires. Au baccalauréat, 59% obtiennent une mention très bien contre 47% pour les garçons. Mais ensuite, la tendance s'inverse pour ces étudiantes qui veulent entrer dans les grandes écoles d'ingénieurs. Léa Doucet, dans cette étude, parle d'un effet classe préparatoire.
On observe réellement une inversion et un accroissement des écarts de performance entre les hommes et les femmes tout au long de ces classes préparatoires. Donc c'est ça qu'on appelle cet effet classe préparatoire, parce que à l'inverse, lorsqu'on s'intéresse aux écoles d'ingénieurs qui recrutent directement après le baccalauréat, donc qui, pour une grande partie, prennent en considération les dossiers scolaires notamment, on observe à l'inverse une plus grande représentation des filles, et notamment parmi les meilleures de ces écoles.
Il n'y a pas une, mais plusieurs explications.
Ça pourrait venir de différentes façons, l'environnement, le côté compétitif, les enseignements, le fait d'être en minorité, de se sentir moins à l'aise. En tout cas, nous, notre étude ne permet pas d'expliquer précisément les raisons de cet écart qu'on observe.
Pour réduire ces écarts, il y a quelques pistes.
Plus de coaching pour les étudiantes, un meilleur accompagnement pour éviter ce décrochage qu'on observe des filles par rapport aux garçons.
Le gouvernement vise pour 2030 un effectif d'au moins 30% de femmes dans les classes préparatoires scientifiques.
Sylvie Coffi, c'est fini Roland Garros pour Gaël Monfils. tennis, le Français s'est incliné au deuxième tour face au Britannique et cinquième mondial Jack Draper. Ça passe en revanche pour Novak Djokovic après son succès en 3-7 sur Corentin Moutet, tandis que Yannick Sinner, numéro 1 mondial, a éliminé Richard Gasquet, le Biterrois, à qui le public de Roland a rendu hommage. Il jouait en effet le dernier match de sa carrière. RFI, il est presque 4h10 à Paris, 2h10 en temps universel. Bonne suite des programmes sur la Radio du Monde.